Moi, j'avais juste une question d'information très, très ponctuelle sur l'ouverture de l'Interland du Havre. Où on en est aujourd'hui du point de vue de l'infrastructure même on a parlé alors l'infrastructure ferroviaire et l'infrastructure fluviale. Qu'est-ce qui est décidé? Qu'est-ce qui est en cours?
Bon, alors, si tu veux, ici, il y a... Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le fleuve s'est réapprécié depuis 15 ans. Hein. Dans les années 2000-2010, on a vu que, comment dirais-je, le taux de croissance du trafic de fret sur la Seine a augmenté d'un pourcentage à deux chiffres tous les ans, jusqu'entre 2000 et 2008. 2008, il y a eu la crise, donc c'est un peu stabilisé. Donc ça montre qu'il y a une capacité. On pense qu'on peut doubler le fret fluvial d'ici à 2030. Donc, intéressant. Ce qu'on ne pensait pas il y a 15 ans ou 20 ans, qu'on puisse faire du conteneur sur le fleuve. On peut faire du conteneur sur le fleuve. Il y a maintenant des barges qui sont équipées pour ça. Ça fonctionne. Deux sujets ici pour optimiser ce fret. D'une part, le premier sujet, c'est est-ce qu'on fait une brèche dans la digue de Port-de-Mille, qu'on appelle une chatière, pour permettre aux barges fluviales, aux pousseurs, de venir jusque dans la darse de Port-de-Mille. Parce qu'actuellement, il y a des convois, mais qui, eux, tirent, qui peuvent passer, contourner et rentrer dans Port-de-Mille. Mais simplement, ce n'est pas les mêmes équipages, ils sont plus nombreux, donc les coûts sont plus importants.
C'est-à-dire qu'il y a un transport de vent
et... Il y a une rupture de charge.
Il y a une rupture de charge. De toute façon, il y a forcément une rupture de charge entre le porte-conteneur et un autre moyen de transport. Et puis aujourd'hui, on a créé quelque chose qui fait un peu l'actualité actuellement, c'est la plateforme multimodale. Plateforme multimodale qui a fait l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt, qui a été réalisé par un consortium de professionnels et qui, malheureusement, ne démarre pas. Et les professionnels vont coucher les pouces. Alors, certains ont dit que c'est le port qui n'a pas écouté les professionnels pour faire. Facile à dire. Ça, c'est les professionnels qui disent ça. Et puis, en fait, quand on regarde un peu plus près, on était au Havre hier, avec TDIE, et hier et avant-hier. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que tout le monde n'a pas joué le jeu là-dedans. Parce que notamment les transitaires n'ont pas intérêt à ce que leurs marchandises quittent le quai de Port-de-Mille, parce que chaque fois que le conteneur reste de plus de 4 jours, il paye 50 euros de coût de stationnement qui va dans une poche. Si on évacue le truc vers la plateforme multimodale, c'est plus lui qui touche les 50 euros, c'est un autre. Hein? Donc vous voyez, ici, il y a des intérêts différents qu'il faut arriver à rassembler là-dessus. Hein? Mais la plateforme marche, on l'a vu marcher hier, il y avait une barge en chargement, on a vu un train, une navette qui allait depuis Port-de-Mille jusque-là. Simplement, il faut qu'une nouvelle équipe la prenne en compte, parce que ce qui s'est passé, c'est que les gars qui avaient monté le sujet, ils disaient « on va pas y arriver, il faut que l'État nous donne de l'argent. » Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas préparé du tout tous les schémas logistiques, le système informatique, ce qui fait que quand ils ont commencé à exploiter, ils avaient des boîtes qui devaient partir à l'étranger qui se sont trouvées à Bordeaux, donc les gens qui leur confiaient une cargaison ont dit « bon, ça va, on n'est pas devant un outil opérationnel, on n'est pas devant des gens sérieux. » Donc il faut reprendre cette affaire. Elle n'est pas facile, mais la montée en charge, d'après ce que disent les responsables du port, d'après ce que dit le maire Edouard Philippe, ça devrait pouvoir marcher. Hein. Là, c'est une histoire un peu, je dirais, pas trop sérieuse. Alors, l'autre sujet, c'est l'émissaire ferroviaire, et c'est la possibilité d'utiliser une ligne, parce que le grand sujet, c'est que la ligne, une des plus vieilles lignes françaises, Le Havre-Paris, ou Paris-Le Havre, elle sera à saturation bientôt. Et notamment pour tout l'arrivée sur Paris entre Mantes et Saint-Lazare. Puis le fret à Saint-Lazare, c'est pas commun. Hein? Et donc l'idée, c'est d'utiliser une ligne ancienne qui s'appelle Serqueux-Gisors. C'est entre 35 et 50 km de ligne. qui passe plus au nord, mais qui n'est pas électrifiée. Donc il faut l'électrifier, il faut la moderniser pour admettre un des trains longs. Mais, et l'enquête publique vient d'être lancée. Hein. Les crédits sont inscrits au contrat de plan. Le seul problème actuellement, c'est que depuis quelques mois, on voit monter comment dire, une inquiétude et s'organiser une opposition des gens de Gisors et d'un certain nombre de petites villes qui vont être traversées par ces convois et disent bah, « nous, on ne tient pas à être réveillés la nuit hein. ». Donc il y a une opposition un peu sociétale, à NIMBY, qui est en train de... qui inquiète, disons, les protagonistes du dossier. Et ça, ça devrait être 4 ans de travaux, si ça se fait. Mais c'est utile, c'est nécessaire. Parce que le sujet de Rouen et de Havre, Tarropa, c'est leur interland. Pour l'instant, leur interland, c'est l'Île-de-France. Mais quand vous regardez la desserte de l'Île-de-France pour ses containers, le port de l'Île-de-France, c'est pas le Havre, c'est Anvers. Je ne sais plus combien, 70%, 75% des containers qui viennent en Île-de-France sont dépotés à Anvers. Hein. Donc, il y a des parts de marché à récupérer. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est d'avoir un interland plus profond, parce qu'Anvers et Rotterdam, ils ont un interland qui va jusqu'à la Suisse, et pour Rotterdam, jusqu'au Danube. Hein. Donc, on n'est pas dans la même cour. Donc, les professionnels du Havre voudraient bien aller au moins jusqu'à la Suisse, jusqu'à l'Allemagne du Sud, jusqu'à l'Italie du Nord. Mais pour ça, ben, il faut traverser l'Île-de-France ou contourner l'Île-de-France. Ça, c'est un gros sujet. Et puis, un des gros sujets actuellement pour le fret, parce que le fret, c'est un scandale national. On est en train de s'éroder tous les ans, la SNCF a complètement abandonné ce sujet, et puis on fait des travaux de nuit pour remettre le réseau à niveau, et le moment du fret, c'est essentiellement la nuit. Donc ça veut dire que les convois n'avancent pas. La vitesse moyenne de certains convois qui partent du Havre, c'est 19 km/h. Hein. C'est-à-dire que quand on enseignait la géographie, c'était à peu près la vitesse des trains entre Moscou et Leningrad à l'époque de l'Union soviétique. Alors, évidemment, les trains de passagers, mais c'est quand même pas brillant, quoi. Alors un camion, pour faire 250 km, ça va quand même plus vite, c'est plus souple, ça va jusqu'à la cour de l'entreprise. Bon, bien qu'on ne va pas à armes égales.
Question, remarque, intervention? Ouais.
Oui, merci pour le double propos, parce qu'il était vraiment illustratif de plein de questionnements qu'on se fait depuis les trois sessions sur justement le maillage entre démocratie et infrastructure. Moi, j'ai une double question, du coup, sur ces deux parties, autour des recettes de nouvelles disciplines collectives et de définition d'intérêt général partagé, parce que... Tous les acteurs sur ces sujets défendent tous l'intérêt général, c'est bien connu. Et donc sur deux sujets spécifiques, un débat public et deux sur qu'est-ce qui serait passé sans Bretigny, j'ai deux questions. Les rationnels du débat public, parce que les procédures, et on en a un peu parlé hier en ellipse, elles sont d'un autre temps aujourd'hui, les enquêtes publiques telles qu'elles sont façonnées, elles font chier tout le monde. Côté État, côté collectivité, côté opérateur.
J'aime bien ce langage scientifique pointu.
Ouais, mais on est là pour être efficace et pour réfléchir à partir des cas concrets. Et donc, on est tous dans une bulle à chaque enquête publique, parce que les deux camps rentrent d'une certaine façon, de manière assez guerrière dans ces procédures légales, et en ressortent paradoxalement de la même façon, parce que chacun y trouve là une ligne pour défendre la théorie d'entrée dans l'enquête publique, et là l'autre, une autre ligne pour vraiment être définition en compte, donc totalement stérile comme sujet. Donc c'est quoi la recette de cette nouvelle discipline collective pour faire que ces procédures aient un intérêt, y compris un intérêt calqué par rapport à l'évolution de numérique. On en a parlé un peu hier, mais comment ça avance. Et L'histoire de Bretigny, sur la conclusion que tu as faite, qui me paraît importante, mais moi je vais donner une expérience qui est Mathieu Pasquio du CGET, pardon. Je ne me suis pas présenté. Excuse-moi, Philippe, d'avoir interrogé à la REC. Moi, je suis chargé de mission régionale sur les contrats de plan État-Région. Donc, j'ai fait les mandats de négociation, j'ai fait les relais interministériels et j'ai fait les négociations du bout de gras des présidents de région qui passent directement sans leurs administrations régionales ou préfectorales directement dans les bureaux du président de la République ou du Premier ministre. Mais c'est le jeu, c'est pas ça mon sujet. Mais Bretigny, tu dis, ça a pris conscience qu'il fallait accentuer la modernisation. Et donc, du coup, on met le drapeau sur un certain nombre d'intérêts particuliers au nom de l'intérêt général de certains projets. Bah, j'ai tendance à te dire que moi, je ne l'ai pas vécu comme ça dans les négociations CPR, parce que Bretigny était passé. Et dans le bilatéral des négociations État-Région, c'était vite oublié, Bretigny. C'est le CPER Limousin a été construit autour de l'arbitrage présidentiel de la LGV, mais je pourrais étayer sur d'autres questions. Donc, ta conclusion sur Bretigny, moi, me laisse un peu sur ma faim, parce que le zapping et l'immédiateté des sujets fait que c'est pas si vrai que ça.
Bon, d'abord, je dirais deux choses. C'est que effectivement, le débat public, il est difficile. Il est difficile parce que Il est devenu difficile. Parce que la notion d'infrastructure a, comment dirais-je, généré des perceptions qui ont profondément changé. Au XIXe siècle, dans une perspective saint-simonienne, l'infrastructure, c'est le progrès. Et ça l'est resté très longtemps. Aujourd'hui, pour une partie de l'opinion, l'infrastructure, c'est une atteinte à la nature. Donc on voit bien qu'on est devant deux approches philosophiques très contrastées. Et quand on discute ou quand on regarde les expressions de certains contestataires au grand projet, on voit bien qu'on est encore, non pas dans des approches, j'allais dire, raisonnables, rationnelles, mais dans des approches presque théologiques. Que le débat, il devient extrêmement complexe et conflictuel, pour ne pas dire frontal. Donc ça, c'est une première remarque que je voudrais faire. Donc le débat est difficile. Et il faut, l'intérêt du débat public et de l'enquête publique, même s'ils doivent être modernisés, c'est qu'ils... leur fonction, c'est aussi de dépassionner le débat. C'est de le rendre plus objectif, de faire en sorte que le décideur public, il puisse mesurer, non pas l'émotion provoquée par telle ou telle expression, tel ou tel projet, mais qu'il puisse apprécier, je dirais, d'une manière raisonnable et pondérer les idées qui s'expriment, qui se confrontent. Deuxième élément, Bretigny. Alors j'ai dit Bretigny, ça a calmé les choses. Oui, ça les a calmés dans l'opinion publique, dans l'expression de presse. On n'a plus vu de critiques à l'idée qu'il fallait rénover les réseaux. Et d'ailleurs, ceux-là même qui demandent des projets veulent aussi qu'on rénove le patrimoine infrastructurel. Mais nous sommes complexes. Nous voulons tous garder l'excellence du passé, mais nous voulons tous aussi avoir les marqueurs de modernité que sont par exemple les LGV. Une capitale régionale qui n'a pas une bonne desserte ferroviaire, j'en parle en connaissance de cause, c'est une capitale qui se sent déclassée. Je vous raconter une petite anecdote. La chambre régionale de commerce de ma région a pendant très longtemps organisé une petite réception annuelle qui s'appelait les Nouveaux Normands. Et on demandait, alors c'est gens qui étaient, c'était pas tout un chacun, c'était le nouveau préfet, un nouveau chef d'entreprise, un professeur d'université, une vingtaine de personnes tous les ans comme ça. Et on leur demandait de donner leur coup de cœur et leur coup de griffe sur leur appréciation du territoire le mariage un an après leur arrivée, quelques mois après leur arrivée. Alors les coups de cœur étaient multiples, la proximité du littoral, l'offre culturelle, la douceur de vivre, la sécurité. 95% des coups de griffe, c'était la liaison ferroviaire avec Paris. Hein, la médiocrité de la liaison ferroviaire avec Paris. C'est-à-dire qu'il y a une attente de mise à niveau et une demande, j'allais dire, d'équité. Hein, pourquoi est-ce qu'on va en 2 heures de Lyon à Paris et pourquoi on met 3h30 pour aller de Cherbourg à Paris, c'est-à-dire plus de temps qu'on en mettait en 1932 quand le président Loubet est venu inaugurer la gare maritime de Cherbourg. Donc il y a des sentiments qui sont portés par les présidents de région, par les maires de grandes villes, et qui sont ressentis par une partie de la population. Hein. Donc c'est ça le sujet, c'est comment on apporte des réponses à la fois d'efficacité et de modernité. C'est tout problème des TET dont on n'a pas parlé. Et là aussi, c'est que pendant 15 ans, on a laissé penser que le TGV, c'est ça pour tout le monde. Qu'un jour, toutes les villes seront maillées par des trains à grande vitesse. Et que pour les déplacements de proximité, ben, il y avait des excellents TER. Entre les deux, on a laissé mourir une catégorie de trains de grande ligne, qui étaient les TET, qui avaient été... Il y a un très grand progrès. Les trains corail dans les années 70, ça a été une élévation du niveau de confort et de qualité de déplacement. Mais là, 40 ans plus tard, les trucs commencent à être un peu flageolants, fragilisés, peu fiables, et ainsi de suite. Bon, les Allemands ont fait ce choix il y a 6 ans. Hein, quand ils ont décidé qu'ils ne feraient pas des ICE partout, des trains à grande vitesse partout, mais des ICX, quand ils ont fait le choix de descendre la vitesse commerciale à 250 à l'heure, hein, ils se sont dit, ben voilà, on ne peut pas mettre des trucs parce que économiquement ça ne tient pas, on ne peut pas mettre des LGV et faire des lignes nouvelles partout, il nous faut des trains qui roulent sur des lignes classiques à 250 à l'heure. Hein, et c'est ces produits-ci, ils sont commandés 300 rames, il y a 5 ans, les premiers arrivent en circulation aujourd'hui. Hein. Mais nous, on n'a pas fait ce choix, parce que je pense qu'on est un pays d'ingénieurs qui aiment les belles solutions, les belles technologies, les belles organisations. Mais on n'est pas un pays, j'allais dire, d'économistes, peut-être un peu, mais pas un pays de commerçants, pas un pays d'hommes d'affaires. C'est dans une famille, celui qui réussit, il fait l'ENA, celui qui rate son coup, il fait HEC, et puis le crétin de la famille, il reprend les piscines. Quoi. C'est pas la même chose que... Vous savez, je terminerai là-dessus par une anecdote. Il y a 20 ans, un peu de 20 ans, à Caen, on avait une usine sidérurgique qui s'appelait, qui a fermé. Parce que monsieur, l'ancien ministre de l'économie, qui était patron d'Unimetal, a décidé qu'il fallait fermer alors qu'elle venait d'être rénovée. Et à ce moment-là, le trafic du port, qui était un trafic essentiellement de produits miniers, et également de produits sidérurgiques à l'exportation, a plongé. On a cru que notre port était mort, c'était à l'époque le 8e port français. Et on a fait un peu le tour d'Europe pour essayer de chercher des solutions, qu'est-ce que peut faire un port au bout d'un canal et tout ça. Et un jour on arrive à Gand, et on est reçu par les deux directeurs du port. Et on parle un peu, et puis on a dit, vous êtes quoi, ingénieur des... pas ingénieur des ponts, parce qu'il n'y a pas d'ingénieur des ponts en Belgique, mais vous êtes ingénieur, vous êtes administrateur. Non. C'était deux officiers de la marine marchande, qui avaient fait 20 ans dans la marine marchande et qui ensuite s'étaient intéressés, étaient passés, j'ai changé de métier, et quand on leur disait, mais comment vous travaillez, qu'est-ce qui vous intéresse, les infrastructures, mais non, c'est pas notre sujet, ça. Bon. Non, notre sujet, c'est comment on va chercher du trafic à 6 000, à 12 000, à 20 000, à 30 000 km. Comment on va convaincre des industriels brésiliens de s'installer à Gand pour monter une usine de liquéfaction de la pulpe d'orange? Comment on convainc Volvo qui rachète une usine d'AF et qui envisage de la fermer, non seulement de ne pas la fermer, mais d'en ouvrir une deuxième? Voilà, notre boulot, c'est ça, c'est de trouver du business pour le port. Puis après, les problèmes, comme quand il y a un problème d'infrastructure, quand elle n'est pas suffisante, on passe un appel d'offres et on trouve la bonne boîte qui va nous faire la bonne infrastructure. Nous, on n'est pas là. On est plutôt dans une approche, on fait un grand projet, Port 2000, Faux 6XL, et puis on dit avec ça, tout le monde va venir chez nous. Ben, ça ne marche pas comme ça. Sur les trains, c'est la même chose. On dit on fait de très beaux trains, les gens vont monter dedans. Le bilan n'est pas équilibré, mais c'est pas grave. L'État subventionne. Souvenons-nous, des États généraux. Moi, j'ai été sidéré par les États généraux de Manaus. Ça s'appelle l'État généraux, ceux que Nathalie Kosciusko-Lyon était. Hein. Assise du ferroviaire. J'étais dans la commission modèle économique qui était pilotée par Nicolas Bavrez. Et quand vous voyez comment a été monté le machin, vous dites ah oui, c'est étonnant. 21 milliards pour faire fonctionner le système ferroviaire, 12 milliards de subventions, et ils arrivent encore à faire 3 milliards de plus de déficit. Quand vous regardez la SNCF, quand vous les questionnez, on l'a fait pour les TET, quelle est votre perspective de gain de productivité d'ici à 2030? Zéro. Quelle est l'augmentation des coûts, qu'ils appellent l'inflation, ce que les économistes appellent maintenant l'inflation ferroviaire? 3,5% d'inflation ferroviaire par an. C'est-à-dire que le coût de fonctionnement du système augmente de 3,5% de plus que l'inflation. Vous dites, ça n'ira pas au bout, cette affaire. Ça va un jour rencontrer le mur. Et alors, la réforme ferroviaire, théoriquement, aurait dû améliorer la productivité, réduire un peu le déficit, et ainsi de suite. Bon, acceptons-en l'augure. Et même quand on voit l'émission de Jacques Rapoport, on peut se poser des questions. Mais quand on voit arriver les nouvelles concurrences au mode classique, hein, que sont le covoiturage par exemple, ou les cars Macron, on se dit, est-ce que ça ne va pas accélérer la dépréciation du modèle économique de la SNCF? Vrai sujet. Vrai sujet. Or, il n'y a pas de fatalité, hein, on peut y arriver. Il y a deux modèles complètement antagonistes qui fonctionnent. Il y a le modèle suisse, ça marche de mieux en mieux, ça coûte cher, hein, ça coûte très cher. Mais il y a un contrat moral entre les citoyens et l'État, enfin, la Confédération, hein, au travers d'une votation qui a permis il y a 3 ans de lever chaque année 4,5 milliards de francs suisses pour mettre dans le système ferroviaire. Mais c'est pas qu'on ne vous prend pas 4,5 milliards sans retour, c'est-à-dire qu'on s'engage d'ici à 2030 à ce que d'abord le système soit plus solide, plus robuste, mais surtout que le cadencement passe de l'heure à la demi-heure. C'est-à-dire que les gens, ils auront 2 fois plus de trains. Étonnez-vous après qu'à Genève, il y ait moins le taux de possession d'une voiture est inférieur à celui de Paris, alors que le niveau de vie est plus élevé. Tout simplement parce qu'il y a un système qui marche et qui est efficace. L'autre exemple, le contre-exemple, c'est l'exemple britannique. On a beaucoup tombé sur l'exemple britannique au moment des grands accidents de la fin des années 80, des années 90. Maintenant, c'est un système qui fonctionne, qui gagne 5 à 6% de part de marché par an, alors qu'ils ont à côté un système d'autocar qui ne s'appelait pas Macron, parce qu'ils ont fait ça avant, mais qui a 30 millions d'usagers par an. Hein. Donc, les deux modèles marchent. Il n'y a pas une obligation de dire je suis forcément libéral ou je suis forcément étatiste. On peut tout faire et puis faire toutes les possibilités entre les deux de mixage et ainsi de suite. Hein. Simplement, il faut regarder les choses les yeux ouverts, regarder le modèle économique qui fonctionne, passer les bonnes négociations avec l'ensemble des acteurs du système, et notamment ici, avec les cheminots. Il y a un vrai sujet ici. Un vrai sujet de statut, un vrai sujet de retraite, un vrai sujet de productivité, un vrai sujet d'organisation de travail. Bon, je crois aujourd'hui, l'entretien du matériel, il faut le laisser aux constructeurs. C'est ce que font les constructeurs, c'est ce que commencent à faire les Allemands, c'est ce que font les Autrichiens, c'est ce que font les Anglais. C'est-à-dire que le constructeur, il a la responsabilité pendant 20 ans de la mise de son matériel sur le quai, le taux de disponibilité dans une entreprise dans laquelle la SNCF est actionnaire, qui s'appelle Westbahn en Autriche, c'est 97%. Le taux de disponibilité chez Virgin en Angleterre, c'est autour de 93-94%. Le taux de disponibilité chez nous, il est de... C'est bien si on arrive à 80. Et ça veut dire que pour les TET, par exemple, si on veut tous les remplacer, il faut 3,5 milliards à peu près. Bon, on a fait une petite étude, mais vraiment en étant très très prudent. Ben, si on avait amélioré le taux de disponibilité, on peut économiser 800 millions. Bon, c'est pas grand-chose 800 millions, mais dans l'état actuel des finances du pays et de la SNCF, ça serait quand même pas mal. Voilà.
Est-ce que vous acceptez qu'on fasse sauter la pause pour continuer les questions? Parce que je pense qu'il y a pas mal de questions. Donc tu voulais...
Oui, j'avais une question. Il me semble qu'il y a...
Juste en te situant.
Oui, je voulais t'allier à SNCF Réseau.
Oui.
J'avais une question sur... Il me semble qu'il y a un point d'étape, une voyure prévue dans le rapport des députés 21. Je voulais savoir...
Bon, tu acceptes qu'on
oui, fasse un paquet? Oui, on fait un paquet.
Alors, dans le paquet, ouais, dans le paquet ferroviaire.
Voilà, normalement, SNCF Réseau se charge des gares nouvelles et des nœuds ferroviaires. D'abord, je salue votre action et le nom de votre commission. C'est quand même très important, c'est pas simple. Je voulais vous entendre simplement sur le TER-GV. Une belle notion, mais qui a du mal à voir le jour. Et donc, je pense que c'est peut-être l'avenir du TGV.
Oui, vas-y.
Donc, Serge Bornarel, UMM à Marseille. Dans l'entreprise, on utilise les méthodes de TRI et de VAN pour faire des comparaisons de projets. Sauf qu'on en définit le temps et puis on cherche à calculer un flux. Or, l'État, en flux financier, ne peut mettre que 2 milliards par an. Donc, est-ce que c'est pour faire de la politique que d'essayer de tordre les méthodes pour les utiliser? Est-ce que l'État ne devrait pas se dire « j'ai pas d'argent, je peux pas investir, peut-être qu'avec ces 2 milliards, je peux garantir des opérateurs qui viendraient, eux, financer ?»
Philippe, tu as commencé ton propos en disant que les mois parlent de démocratie. Je vais te poser deux questions de démocratie pour le coup. Il y a beaucoup de projets qui sont, enfin beaucoup de remises en cause des analyses socio-économiques des projets aujourd'hui. On se rend compte que la démocratie des experts est remise en cause. Après coup, on se rend compte que les analyses de trafic sont pas au rendez-vous. Tu as dit que quand QVD t'a confié la mission, il a voulu, alors je te cite, une commission qui ne dise pas n'importe quoi, qui a fallu contrebalancer avec des experts.
Alors, non, je n'ai pas dit ça tout à fait comme ça.
On a compris qu'il n'y avait pas de risque que les politiques racontent n'importe quoi. Ça,
voilà. Les politiques n'ont pas forcément une expertise, ils en avaient besoin.
Alors j'ai une provocation.
L'intérêt, c'est la confrontation justement de la défense du territoire et puis du partage d'une analyse entre différentes strates politiques et d'autre part une expertise qui nous confronte à des réalités.
Alors j'ai une double question, Philippe. Moi qui ai vécu les deux commissions, je peux témoigner d'un fonctionnement démocratique à l'intérieur. Mais as-tu eu le sentiment d'être dépossédé par les experts dans tes commissions? Première question. Et deuxième question, vu la manière dont les deux gouvernements se sont appropriés les deux rapports, c'est-à-dire qu'ils ont tout acheté, dans les deux cas, enfin quasiment tout acheté, y compris dans le rapport que tu as fait, je rappelle quand même qu'on a proposé les aménagements de services ferroviaires, alors que dans les CPER, les régions continuaient, l'État a financé des modernisations, outre de Limousin. Est-ce que tu trouves ça démocratique ou pas démocratique que un rapport d'une dizaine de personnes suffisent à remettre en cause aussi brutalement un ensemble de conclusions un ensemble de dispositifs, de procédures. Il y a eu un certain nombre de débats publics pour un certain nombre de projets. Les deux gouvernements, d'une certaine manière, ont balayé les historiques de ces projets en disant « voilà les rapports du rond, ils sont très bons, donc on achète tous ».
Voilà, et une dernière intervention pour cette vague-là. Oui. Non, c'est pas toi, c'est... pas vu. Je t'ai regardé, mais tu as...
C'est vous. C'est juste deux interrogations. Thierry Gourlet, CGT. C'est par rapport à la tarification. Est-ce que la politique de tarification des TGV de ces dernières années n'amène pas non plus? Est-ce qu'on préfère prendre d'autres moyens de locomotion? Parce que bientôt, ça va revenir beaucoup moins cher par exemple à Rennes, Paris, en voiture, quitte à prendre quitte à ne pas intégrer les questions d'environnement, que le train. C'est un repos. Et la deuxième question, c'est par rapport au fret. Donc en Bretagne, 99% du fret se fait par la route. Il y a eu des aménagements qui ont été faits, financés par les collectivités territoriales, particulièrement la région, pour mettre à la disposition de la grande distribution des plateformes logistiques, qui ne sont pas utilisées. Les logistiques entre guillemets préfèrent utiliser la route, et effectivement cette partie-là ne veut pas payer parce que tous les Bretons ne sont pas non plus en défaveur de participer financièrement à l'aménagement de leur territoire. Et ça m'amène à la question sur l'écotaxe. L'écotaxe, déjà tout à l'heure on disait qu'on était bien content de trouver 800 millions d'euros d'économie. L'écotaxe, il va quand même falloir payer 1,2 milliard. Donc c'est la question, c'est pourquoi est-ce qu'on si facilement que ça, bah, est-ce que si les réseaux qui composaient entre guillemets la fronde contre l'écotaxe avaient été différents de ce qu'ils étaient, l'écotaxe aurait existé? Parce que si on regarde de plus près, il y a plusieurs réseaux qui se sont mis en commun pour s'opposer à l'écotaxe. Je peux en citer quelques-uns: MEDEF, FRSEA, FNTR, Chambre d'agriculture, Grande Distribution. Si ça avait été d'autres acteurs, le gouvernement aurait peut-être été différemment à l'écoute.
Allez, deux interventions comme clos.
Ouais,
vas-y. Oui. Ben, je sais pas.
Jean-Luc Hurette, alors je suis heureux de vous accueillir, puisque je ne serai plus le seul président démocratiquement élu dans l'Assemblée. Je suis président d'une communauté commune rurale dans les Hautes-Pyrénées. Et...
ça s'entend.
Vous me disiez...
Les Hautes-Pyrénées, pas là.
Tu veux pas la LGV ou...
Vous parliez tout à l'heure des difficultés qu'on avait dans la démocratie locale par rapport aux infrastructures. Est-ce que le Parlement en général, la démocratie, la République, peu importe, n'a pas donné à un moment donné trop de poids à l'expression permanente, récurrente et infinie des néo-écolos qui s'opposent à tout projet? Moi j'ai un exemple très concret, je suis sur un projet de méthanisation important, et trois personnes bloquent un projet qui a un intérêt pour tout un territoire. Voilà. Et là, c'est le problème de la démocratie et territoire. Et réseau.
Oui, tout à fait.
Et je voudrais simplement préciser qu'en plus pour le réseau, dans cette association, qui regroupe soi-disant 200 personnes, on en a 28 du coin, et tout le reste, ça vient de Strasbourg, de Nantes, de...
C'est étranger.
Voilà, vive les réseaux.
Bon, et attends, juste...
Oui, bien sûr.
Isabelle,
Fédération des travaux
publics de Pyrénées, basée à Toulouse. Une question et puis...
Ferrer.
Une question et puis ensuite une information. La première question concerne la LGV Bordeaux-Toulouse. Vous en avez beaucoup parlé. Vous avez indiqué que dans votre travail, dans la commission Mobilité 21, c'était un projet que vous portiez à bout de bras. Si c'était à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous penseriez de ce projet-là? Et concrètement, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez qu'il va se faire ou pas? Et l'information, c'est, je sais que vous êtes au courant, nous appartenons, Fédération des travaux publics, à une association qui s'appelle Refus Transport.
Oui.
Et nous organisons le 31 mars prochain une matinée sur le financement des grandes infrastructures dans le sud-ouest européen. Et un des sujets sera le financement de la LGV Bordeaux-Toulouse.
Voilà. Oui, je suis invité d'ailleurs à cette manifestation, mais je ne suis pas sûr encore de pouvoir y rendre. Bon, alors la revoyure. Nous, on a suggéré, on a dit, notre travail, il a du sens au moment où on le fait. Hein. Donc, on pense que, d'abord, on ne savait pas ce qui allait advenir de ce rapport, puisque un rapport, ça peut ou bien regagner une place prédestinée sur une étagère, ou bien on en fait quelque chose. Et on s'est dit, ce rapport, il faut qu'on ait une vision qui soit réaliste de son usage. C'est quelque chose qui est à consommer maintenant, je vais dire, qui a une portée de 4 ou 5 ans. Mais dans 5 ans, quelles seront les conditions du transport? Quels seront les moyens, les ressources du pays? Nous n'en savons rien. Donc, nous le pensons, on dit, une bonne méthode serait de recommencer l'exercice
à peu près tous les 5 ans. On a recommandé également, dans ce rapport, d'avoir une vraie politique de planification et de programmation des infrastructures, sans imagination, hein, on a regardé ce que, on ne l'a pas regardé depuis longtemps, ce que fait le Bundestag, ce que fait l'Allemagne. Vous avez une loi de planification, comment dirais-je, à long terme, à 15 ans, sur les infrastructures qui sont destinées à être mises en œuvre, ou en tout cas qui correspondent à un besoin au moment où on établit cette loi. Et puis, parce que on a besoin aussi de faire évoluer les choses, compte tenu de l'évolution du contexte, compte tenu d'un besoin nouveau qui apparaît, compte tenu d'analyses qui peuvent être différentes, et bien d'avoir des lois de programmation à la temporalité plus courte. Et donc, nous, on pensait qu'ici, ce serait intéressant d'avoir justement deux types d'outils législatifs. Un outil à 15 ans qui fixe les orientations, un outil à 5 ans qui soit, comment dirais-je, l'outil de programmation et l'outil notamment de programmation budgétaire. Ça nous semblait aussi intéressant parce que quand on parle de transport au Parlement, notamment dans la commission du développement durable, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des transports, très souvent, le député membre de la commission, il vient avec le dossier de sa circonscription. Il vient avec le passage à niveau dangereux, il vient avec la gare qui n'est pas équipée d'ascenseurs et qui est peu accessible aux personnes âgées, il vient avec les retards de son TER ou de son TET. On a une discussion qui n'est pas du tout stratégique, mais qui est très parcellisée, pointilliste. Et ce n'est pas très intéressant, ni pour le ministre, ni pour les collègues qui sont là. Ce serait bien mieux d'avoir une vraie réflexion sur quelle est la stratégie de la France en matière d'infrastructure. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que la France, d'ailleurs, a une stratégie en matière d'infrastructure? On a des expressions politiques différentes en fonction des gouvernements qui succèdent. Ça, c'est un... Et nous pensons, et c'est pour ça qu'on a créé le TDIE il y a 15 ans, c'était aussi pour que, à gauche et à droite, on puisse avoir des idées partagées, hein, et les porter ensemble au-delà des alternances. Deuxième sujet, deuxième question, marseillaise, est-ce qu'on ne peut pas avoir un effet de levier avec le faible moyen dont on dispose? Oui, sûrement. Mais ça pose un vrai problème sur la question de l'utilisation de l'argent privé en France. Hein? Sarkozy a joué ça en utilisant très largement le PPP. Hein? Sur les 4 LGV qui sont en cours d'aménagement, qui vont être mis en service cette année et l'année prochaine, 2 sont en concession, Tour Bordeaux, et également, comment ça s'appelle, LGVS, deuxième phase, et puis 2 sont en contrat de partenariat, celle qui va vers Rennes et Loire-Bretagne, hein, et l'autre qui est le contournement Nîmes-Montpellier. Ceci dit, les PPP, actuellement, bon d'abord, chantier impeccable, temps respecté, assurance d'avoir une prise en compte de l'entretien dans la longue durée. Ça, c'est les 3 choses importantes. Le problème, c'est qu'il faut les financer sur, la durée, et il faut également prendre le coût de financement qui est plus élevé pour un privé que pour un État, surtout actuellement, où vous voyez qu'on peut emprunter quasiment à zéro. Et enfin, il faut assumer le risque que prend le PPPiste. Hein? Donc ça coûte, actuellement, le PPP coûte cher. Je veux vous dire que j'ai du mal à payer les 2 concessions. J'ai 600 millions de retard de paiement à SNCF Réseau depuis 2 ans. Ce n'est pas nous qui avons du retard, c'est l'État qui nous dit, le budget qui nous dit, on lisse les paiements publics. On laisse les paiements, pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait déjà anticipé l'abandon de l'écotaxe et notamment l'indemnisation des communes. Donc l'argent de SNCF Réseau, il est passé dans la poche des communes. Et puis après, à partir de 2017, il va falloir sortir 100 à 150 millions par projet tous les ans pour payer le loyer, normal. Hein. Bon, donc c'est un choix politique, mais vous avez moins d'argent et vous en faites, enfin, vous pouvez en faire plus, mais vous allez payer un peu différemment. Problème de démocratie, Denise. Je pense que ces rapports, les gouvernements les demandent. D'abord, Pierre pourrait mieux vous en parler que moi, parce qu'il a vécu ça de l'intérieur lorsqu'il était à Matignon. C'est que les gouvernements décident toujours à la dernière minute. Hein. Chaque fois, en se disant peut-être qu'il y a quelque chose qui va se produire qui nous évitera de prendre cette décision. Moi, je l'ai vécu sur la loi d'aménagement du territoire, où on avait suggéré qu'il y avait un petit sujet, qu'il fallait créer des délégations pour éviter d'avoir des ennuis avec le Parlement. On a eu le problème, c'est un verre qui nous l'a posé d'ailleurs, et il a fallu en venir là, mais on l'a fait à chaud, et on l'a payé plus cher. Hein? Donc, ça c'est un peu le défaut, et là, ces deux missions, on les a commandées en désespoir de cause. Puis on s'est dit, bah, il faut mouiller à la fois des experts, et surtout des politiques de tous les bords, pour que ça ne soit pas un truc politiquement difficile à assumer. Hein? L'usage qu'en fait le gouvernement, certains auraient souhaité qu'il y ait un débat sur mobilité 21 au Parlement, et des parlementaires notamment. Quelqu'un comme le président de la Commission des Finances, Gilles Carrez, qui est un des fans de ce rapport, hein, disait il faut qu'on s'en serve et qu'on en débatte. J'en ai invité déjà à la commission des finances, bon, on en a débattu ici et là, mais il n'y a pas eu, je dirais, d'institutionnalisation. Il y a même quelqu'un, je me souviens, lors des, comment ça s'appelle, des assises de l'environnement, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc qui a lieu à l'automne maintenant, la conférence environnementale, voilà. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec tout ce qui est un peu officiel. On était dans une table ronde avec Ségolène Royal et Alain Vidalis. Et il y a deux personnes, un environnementaliste et un vice-président de la région Aquitaine, qui ont dit, mais on a l'outil, maintenant il faut institutionnaliser le rapport mobilité 21, et puis on se tient à ça. Alors j'étais obligé de... J'entendais bien qu'Alain Vidalis était un peu embêté, que Ségolène Royal, quand elle a bien compris ce que c'était que cette commission mobilité 21, elle n'était pas très au courant. Donc j'étais obligé de monter au créneau pour défendre le gouvernement et dire que la décision politique n'appartenait pas à une commission théodule. Elle appartenait au pouvoir légitime, qui était soit le gouvernement, soit le Parlement. Et qu'une commission, ça pouvait tout juste faire des préconisations plus ou moins éclairées, plus ou moins opérationnelles, mais que on ne pouvait pas aller beaucoup au-delà. Hein, mais c'est vrai qu'il y a ce sujet, et ils ont pris, mais après tout, ils auraient demandé un rapport au CGEDD, ils auraient demandé un rapport à un expert qui était public, ils auraient peut-être fait la même chose avec. Alors on n'est pas plus illégitime que... parce qu'il y avait quand même quelques parlementaires. La tarification des TGV, la tarification est en soi un vrai sujet. Et je le poserai en parlant un peu différemment. Comment est-ce qu'on partage l'effort entre le contribuable et l'usager? Qu'est-ce qu'il doit payer le coût du transport? Est-ce que c'est le contribuable, est-ce que c'est l'usager? Est-ce que c'est un mixte entre les deux? Et quelle est la part du mixte? Les Suisses, qui n'y sont pas encore tout à fait parvenus, disent la logique ce serait d'avoir 50-50. C'est-à-dire que 50% du coût du ferroviaire reviennent au contribuable, parce que c'est un bien public, et 50% revient à l'usager parce qu'il en profite tous les jours. Hein? Avec des aides qui peuvent être données. Hein? En Suisse, il y a un système de passe formidable. Vous avez une petite carte, comme votre carte bleue, comme votre carte de resto, de cantine. Et ça coûte 3000 euros pour voyager en deuxième classe. Enfin, ça, 3000 francs suisses. Excusez-moi. Et 5000 pour voyager en première classe. Mais quand vous êtes salarié, vous pouvez déduire les 3000 euros de votre, votre impôt sur le revenu. Sauf qu'en France, comme il y a 52% de personnes qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, le système est inapplicable et intransposable. Mais bon, 50% c'est pas mal. Moi, quand j'ai commencé à siéger dans un syndicat de transport en commun, on était à 48% de taux de couverture, ce qui était bien. Hein. Maintenant, on a vu que tout ça s'est dégradé. Les tarifs ont augmenté beaucoup moins vite que les coûts depuis 20 ans. Et aujourd'hui, on est sur des tarifs qui, à mon avis, à mon point de vue, sont souvent dangereux. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils n'assument plus suffisamment les coûts d'exploitation. Et d'autre part, parce qu'ils font perdre tout repère sur la valeur réelle du transport aux consommateurs. Parce que quand vous êtes sur un TGV, vous payez 100% à peu près, quand vous êtes sur Paris-Lyon-Marseille, vous payez 100% du coût d'exploitation et un petit peu, vous remboursez un petit peu du, comment dirais-je, de l'investissement. Mais quand vous êtes sur un TER classique, vous êtes à 23, 24, 25% selon les régions en taux de couverture. Quand vous êtes en Languedoc-Roussillon, où vous avez des fois des TER à 1 euro, vous êtes à 3, 4, 5% du coût. Comment est-ce qu'un usager peut comprendre qu'on lui demande ici un prix très élevé et là qu'on lui donne quasiment, qu'on lui offre presque le transport? Très dangereux, très dangereux. Et il me semble que la recherche d'un équilibre, alors 50-50 c'est sûrement impossible à obtenir aujourd'hui, mais un équilibre qui soit un peu plus fiable est quelque chose qui devrait être recherché. Bon, les problèmes du TGV aujourd'hui, il y a le coût bien sûr, mais il y a aussi le coût du péage qui augmente de 6% par an, et d'ailleurs la RAFER vient aujourd'hui de dire que c'était pas raisonnable. Hein. Il fallait que là on détériore complètement le produit TGV avec ça. Donc, bon, je pense qu'il y a ce, sur les frais. Sur le fret, je pense que les gens qui déplacent des marchandises, ils veulent deux ou trois choses. Ils veulent d'abord la sécurité de leur acheminement. Savoir quand est-ce que les entreprises travaillent en flux tendu. Donc le truc, c'est que je mets ma cargaison sur une barge, sur un train, sur un camion, mais j'ai besoin de savoir quand elle va arriver. Ça peut être 2 jours ou 4 jours, mais il faut qu'on me dise au moment où je charge quel est le jour et l'heure à laquelle je vais disposer de ma marchandise. Ça, un camion peut le faire assez bien, une barge probablement aussi, un train aujourd'hui on sait. Et ça, alors ça dépend des trains. Les autoroutes ferroviaires, ça marche plutôt bien là-dessus. Mais autrement, comme le train n'est pas prioritaire, comme il passe après les trains de passagers, s'ils ne passent pas, dans le... puis les sillons qu'on donne aux opérateurs sont souvent médiocres, donc c'est extrêmement pénalisant. Quant aux plateformes logistiques, là-dessus aussi, il y a un vrai sujet. On avait fait un débat il y a quelques années avec la direction des grands projets au ministère de l'Équipement. On avait organisé un colloque au Sénat, tu t'en souviens peut-être, Michel, et puis un autre à Lyon, là-dessus. La question c'est, est-ce qu'on peut planifier l'installation d'une plateforme logistique comme ça, alors que les besoins des professionnels changent assez vite. Et c'est plutôt à eux de nous dire là où il faut les implanter, parce qu'autrement ils n'y viennent pas. Ça c'est comme vous savez les parkings de dissuasion qu'on met autour des villes, ils sont vides, et puis en revanche vous avez des tas d'endroits improbable où on trouve des voitures en paquet parce que les gens s'installent là où ça les arrange. Enfin, l'écotaxe. Moi, je crois que l'écotaxe, c'est un truc qui a été, d'abord, bon principe. Comme le Kabelmarot en Allemagne, bon, mais compliqué à mettre en œuvre. En Allemagne, il a fallu 2 à 3 ans pour la mettre en œuvre et le consortium qui l'a mis en œuvre a été obligé de payer des pénalités au gouvernement allemand très lourdes parce qu'il était très en retard. Donc, compliqué. Deuxième sujet, pour que le coût de prélèvement soit supportable, il faut qu'il y ait une assiette de recouvrement qui soit large. Là, le coût de prélèvement, c'était 25% de la recette. Londres, c'est le péage de Londres, c'était au début 50% du coût de la recette. Hein. Mais ce n'était pas fait pour gagner de l'argent, c'était fait pour dissuader l'entrée. Alors. Donc c'était déjà médiocre. Ensuite, on a bricolé le système de répercussion de la taxe sur les chargeurs, de façon difficile. Le décret a été signé le dimanche du deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous voyez bien la hâte avec laquelle on a fait ça, et ce n'est pas le ministre qui l'a signé, c'est le DGITM, hein, parce que le ministre n'a pas voulu se compromettre là-dedans. Hein, donc quand on voit le directeur général qui est obligé de faire le boulot du politique, ça interroge. Donc ça veut dire que c'était quand même pas tout à fait top. Ensuite, il y a eu une discussion entre Frédéric Cuvillier et les syndicats professionnels, et ils ont retrouvé, ils ont remonté un système de répercussion avec la FNTR, qui est le syndicat plutôt des gros transporteurs. Mais ils n'ont pas eu, ils ont négligé les petits transporteurs, qui sont quand même ceux qui bougent le plus sur le terrain. Donc, bon, à un moment donné, vous savez, en politique, il y a des rapports de force. Et quand vous allez frontalement et imprudemment en face de l'opinion, vous pouvez être obligé de reculer beaucoup plus vite que vous ne l'avez imaginé. On est sur un sujet comme ça, actuellement. Hein? Bon. Donc, la préparation, la, généralement, quand on fait la guerre, on fait des préparations d'artillerie solides avant de se lancer, même si ce n'est pas forcément la garantie du succès. On fête le 100e anniversaire de Verdun, il y a eu une très grosse préparation d'artillerie. Et... Comment?
La question, c'était surtout sur quelle opinion? Parce que l'opinion, en fait, il est vraiment large. Il est contre. Il est surtout fort.
Oui, mais nous, on a senti quand même au Parlement hein, que 100% des parlementaires bretons étaient contre, qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est pas que ceux de gauche étaient contre sur le principe, mais ça passera jamais chez nous. On a d'abord baissé de 30% le coût de la taxe en Bretagne, puis de 50%, et malgré ça, on est allé au râteau. Alors, ou bien il faut dire à la Bretagne, bon, bah, finalement, l'État n'assume plus les dépenses d'infrastructure en Bretagne, c'est une question bretonne, et c'est la région Bretagne qui s'en charge. Et tout, c'est une autre façon d'envisager les choses. Hein. Mais, compliqué, moi je me souviens d'être allé voir un jour vice-président aux transports de la Bretagne, aux infrastructures, qui était Ambroise Guélec. Hein, au début, on a créé TDIE pour aller chercher des adhérents. Oui, je finis. Et il nous avait dit, il était désespéré lui aussi, il disait, nous notre problème c'est d'avoir des routes gratuites, parce qu'on ne va plus être capable de les entretenir d'ici quelques années, on a ici un vrai sujet. Hein. Il était conscient du truc, mais politiquement c'était, il y avait un travail de préparation politique très long à faire pour arriver à changer l'opinion des gens. Sur l'expression accordée aux écologistes, bon, moi je suis assez d'accord avec vous, c'est souvent des minorités, toutes petites minorités, qui savent fédérer autour d'elles, hein, les gens qui viennent de l'extérieur. Ce qui s'est passé à Sivens, bon, je connais un peu Thierry Carcenac, le président du Conseil Général, qui est vraiment un type bien responsable, un fonctionnaire des impôts, très pas du tout un excité, hein, Thierry, et qui avait fait quelque chose, je crois, qui était assez raisonnable. Et bon, ce qu'il me dit, c'est débordé, les gens venaient dans ses zoos, mais et on n'était pas dans le dialogue, on ne pouvait pas discuter, c'était une opposition frontale à ce projet. Les gens étaient contre, on s'est retenu de haut, quoi qu'il arrive, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit bleue, qu'elle soit verte ou transparente, ils n'en voulaient pas. Hein, et à partir de là, ils ont mis les moyens. Il y a eu cet accident terrible qui fait qu'il n'a pas eu de reculer, mais je pense qu'on aura un vrai problème demain pour réaliser de nouvelles infrastructures, ça c'est un vrai sujet. Et puis il y a Isabelle Ferrer, la LGV Bordeaux-Toulouse. Bon, il y a des contestations aussi sur le tracé.
On a subi d'ailleurs, oui. On est arrivé après Sidens.
Hein, oui, après Sidens, tout à fait. Bon, je pense qu'il faut beaucoup discuter sur le tracé, pour prendre le temps de la discussion, parce que de toute façon, on a... Il faut prendre le temps de la discussion, parce que il faut le temps du financement. Donc à partir de là, je pense qu'il faut que le débat s'installe dans le territoire, dans la région, auprès des habitants, que peu à peu l'idée mûrisse. Une fois qu'elle sera partagée, bah, rien ne pourra s'y opposer. Ou alors les gens diront non, c'est plus le sujet. Mais l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut faire une LGV ou est-ce que finalement les navettes sont pratique et abordable aujourd'hui pour aller à Paris, est-ce que c'est pas le sujet, voilà. Mais moi je pense que la réunification fait qu'un Varreau, Bordeaux, Montpellier, Marseille, ensuite vers Nice, et puis ensuite vers l'Espagne, ça a du sens. C'est le maillage du réseau de Gilles. Voilà, merci, pardonne-moi, cher Philippe, d'avoir été un peu trop long.
Merci à toi.